plateau, deux invités, seuls, devant les caméras, pour une conversation qu'ils mèneront comme ils l'entendent. Mais avant le débat, petit préambule.
Je m'appelle Jean Bricmont, je suis professeur de physique théorique à l'Université de Louvain en Belgique. Je suis spécialisé en physique mathématique et en physique statistique. Et j'ai écrit un certain nombre de choses à propos des pseudosciences, des religions et de la critique des religions et de l'irrationnel d'un point de vue scientifique.
Même question, pouvez-vous vous présenter ?
Je m'appelle Jacques Arnoux, je travaille à l'Agence spatiale française, au CNES, où je suis chargé des questions d'éthique. Pourquoi nous allons à la suite de Gagarine dans les étoiles ? Voilà ma question quotidienne. Par ailleurs, je suis théologien, la question religieuse m'intéresse, et donc le lien entre les sciences et d'autre part la religion est un de mes dadas.
Top chrono, vous avez maintenant 30 minutes pour converser.
Science et religion, plus que de la méfiance. Mais je pense que la religion, dans une société comme la nôtre, qui est en principe très laïque, pose encore des questions, pose des problèmes, les rapports avec l'islam en sont un exemple, mais aussi parfois avec le catholicisme. Et je pense qu'il y a aussi dans un discours philosophique de type postmoderne, relativiste, etc., un grand nombre de confusions à propos des sciences et des rapports entre sciences et religion, qui sont repris parfois par les religieux, pour d'une certaine façon abaisser l'approche scientifique des choses et par défaut faire de la place au discours religieux. Personnellement, je pense effectivement, je suis méfiant vis-à-vis des religions, et je pense que c'est important de clarifier les choses de ce point de vue-là.
Moi j'aime bien science et religion plus que de la méfiance, et cette invitation à dépasser la méfiance, dépasser aussi ce que vous appelez confusion, parce que nous ne pouvons nous ignorer ni les uns ni les autres, aujourd'hui et demain. Donc il faut dépasser la méfiance, je crois que c'est l'objet de notre débat.
Mais je pense que en fait, si on regarde l'histoire, mettons en Occident, depuis la Renaissance, il y a eu une croissance du scepticisme, différentes formes de scepticisme par rapport à l'orthodoxie religieuse, y compris évidemment chez certains religieux. Scepticisme qui ne s'exprime pas toujours sur des bases rationnelles et scientifiques, mais qui a eu, à mon avis, deux ingrédients. D'une part, le développement des sciences modernes qui a montré qu'il y avait une forme de connaissance empirique, vérifiable, testable, etc., qui n'était pas celle des livres sacrés, de la théologie, de la métaphysique classique. Et d'autre part, les explorations, les voyages, etc., qui nous ont montré qu'il y avait d'autres cultures, qu'il y avait d'autres religions, d'autres façons de croire, etc. Et de façon croissante, c'est poser la question aux croyants de justifier leurs croyances. Et à cela, à mon avis, ils ont trouvé deux types de réponses. Une, je sais que c'est simplifié, mais je suis obligé de simplifier. L'une, grosso modo, je vais appeler protestante, qui insiste sur l'acte de foi, et qui dit, voilà, je crois, ça vient avant la théologie, on rejette la théologie, l'approche rationnelle, théologique à la Saint Thomas, etc. Bon. Le problème, évidemment, que ces gens-là, auxquels ces gens-là sont confrontés, c'est que, ou bien, ils disent, nous, on a la vraie foi, et les autres, les musulmans, les bouddhistes, etc., n'ont pas la vraie foi, auquel cas, on peut les accuser, et ce n'est pas politiquement correct de nos jours, d'ethnocentrisme, si pas de racisme, de dire, voilà, nous sommes supérieurs, nous avons la vraie foi, puis les autres, voilà. Ça, c'est un problème auquel ils se heurtent. Et une des solutions modernes auxquelles le protestantisme mène, mais auxquelles le catholicisme arrive aussi souvent, c'est le relativisme. Mmh. C'est-à-dire, nous avons raison dans notre culture, puis les bouddhistes ont raison dans leur culture, les musulmans dans la leur, etc., etc. Une forme de relativisme qui consiste à mettre tout le monde sur le même pied. Et puis, il y a la façon catholique de procéder, qui a été de malgré tout tenter de défendre la doctrine défendue par des arguments rationnels, en disant, voilà, on peut connaître rationnellement l'existence de Dieu, et puis après ça, il faut encore justifier tous les aspects particuliers de la religion catholique par rapport aux autres religions. Alors moi, je préfère cette approche-là, je dois dire, parce qu'elle évite l'écueil du relativisme, qui me paraît de la pire destruction de la raison. Mais j'insiste sur le fait que, évidemment, ce que j'aime dans cette approche-là, c'est qu'elle échoue complètement, et que par conséquent, elle fait place à une vision, je vais dire, scientifique et naturaliste du monde, parce que c'est la seule alternative possible, vu le développement des sciences, et vu l'impossibilité de fonder une théologie rationnelle.
Mais alors, est-ce qu'on peut parler de divorce dans ce cas-là ? On propose des débats sur le mot de divorce. Est-ce que ce mot de divorce vous agrée ?
Oui,
écoutant, on a l'impression que c'est le domaine religieux qui capitule.
Mais c'est-à-dire que je pense qu'effectivement, face aux critiques, si vous voulez, je pense que On le voit parfois en discutant avec certains musulmans, ou probablement d'autres, ou des hindous, mais on le voit moins souvent ici, mais je veux dire, des gens qui continuent à croire, si vous voulez, comme les catholiques et les chrétiens croyaient il y a 50, oui. Ça dépend, 100 ans, 200, ça dépend des endroits et des périodes, mais littéralement, dans la littéralité d'un texte, ou comme les chrétiens américains, certains chrétiens américains, pas tous, mais certains. Et je pense que cette attitude, je la trouve dangereuse, je la trouve préoccupante, mais je trouve qu'elle a une certaine cohérence que n'a pas le christianisme moderne. Il me semble que l'attitude des chrétiens modernes, c'est d'accepter, par exemple, le discours scientifique sur l'évolution, et puis d'essayer d'une certaine façon d'y plaquer un discours religieux, alors que le discours religieux traditionnel, évidemment, il disait, il croyait pas à l'évolution, mais pendant des siècles, on a combattu l'évolution, on s'y est opposé, on n'a pas cru dès qu'il y avait des arguments scientifiques. On a combattu Buffon, on a combattu Galilée, enfin, on a combattu tout ce qu'on pouvait combattre, et puis finalement, on a reculé, on a cédé, et on réinterprète alors le discours religieux classique de façon à le mettre à l'ordre du jour. Mais ça me paraît un exercice intellectuel inutile, je comprends pas.
Je pense qu'il n'est pas inutile, il est traditionnel. C'est-à-dire qu'on a une vision de la religion qui est une vision relativement fixiste, en général. Les croyants, c'est des gens qui tiennent à un dogme comme on tient à un pied d'une table.
Ah non, plus maintenant, mais traditionnellement,
non,
oui.
Non. Dans la tradition, il y a quand même toute la part du travail théologique, qui a toujours été un travail d'intelligence, et qui ne se contente pas d'un discours qu'on répète année après année, génération après génération. Alors, je vous ai parfaitement raison. J'aime bien votre manière de dire, voilà, il y a quand même deux attitudes. Celle qui, au fond, refuse la science, et c'est quand même une position qui est au moins clairement définie, surtout pour ceux qui...
Ou qui la met de côté, ou qui l'accepte, mais qui la considère dans un autre registre.
Et au fond, c'est la solution la plus simple pour tout le monde, parce qu'on sait qu'ils sont nos opposants, et ils sont bien catalogués. Bon, effectivement, c'est pas ma position. Position, c'est celle d'être, en fait, d'aller piller chez les scientifiques, ce qui est, à mon avis, la chose la plus intéressante dans la démarche scientifique, qui est la curiosité et le fait qu'on ne s'accroche jamais à quelque chose de définitif en science. Enfin, du moins dans la noblesse de la recherche scientifique, c'est ça. Il y a dans science, il y a des dogmaticiens ou des dogmatiques, comme en religion, cela dit. On peut en discuter. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est vrai que le risque, c'est un espèce de relativisme dans lequel il n'y a plus aucun repère. Mais entre un relativisme dans lequel il n'y a plus aucun repère et un dogmatisme qui se tient fixement à quelque chose, je crois qu'il y a une voie moyenne, qui est plutôt la mienne, qui prend en compte un certain nombre d'éléments constitutifs de la tradition chrétienne, mais qui, à partir de ces éléments, se coltine aussi le monde, la réalité du monde, la réalité de la recherche, je dis bien de la recherche, pas des choses que la science, elle aussi, essaye de m'imposer définitivement. Parce que... tout en partageant une grande partie de vos idées, je trouve que le divorce, puisqu'on propose de débattre sur le divorce, il est partagé dans ses torts. C'est-à-dire qu'il y a un tort, sans doute, qui vient de la religion, parce qu'on a brûlé Giordano Bruno, condamné Galilée. Mais si, mais c'est important.
Mais je ne veux pas venir avec ça. Je parle uniquement sur le plan intellectuel.
Oui, mais au niveau scientifique aussi, il y a eu, par moments, des affirmations, il y en a encore aujourd'hui, des affirmations un peu péremptoires qui aussi ont sans doute creusé le divorce. Donc,
oui, mais le divorce, pour moi, il vient essentiellement d'une démarche sceptique. Pour moi, ce qui est important dans une démarche scientifique, c'est la démarche sceptique. C'est-à-dire, on demande quels arguments factuels ou logiques me donnez-vous pour croire ce que vous dites. C'est ça le problème fondamental.
Quels
pourquoi dois-je croire ce que disent... Attendez, prenons l'histoire de l'Église. Vous ne pouvez pas nier, ou du christianisme en général, ou des musulmans, c'est un peu pareil, mais vous avez un récit, si vous voulez, par exemple, de la création, etc., et aussi une bonne partie de l'histoire biblique, dont on peut montrer, si on approche ça scientifiquement, qu'il est faux. Et donc, on a des gens qui, pendant des siècles...
Un récit qui n'est pas historique.
Oui, bon, il est faux. Il est faux, il n'est pas historique, et il a été pris, c'est important, pour historique pendant des siècles par les vrais croyants. Alors, moi, j'ai du mal à comprendre comment un Dieu tout-puissant et infiniment bon induit en erreur des vrais croyants pendant des siècles avec des histoires qui, dans le domaine factuel... sont fausses, et quand on vérifie ces domaines, ces idées, quand on le vérifie au niveau factuel, qu'on voit que c'est faux, on voit les croyants battre en retraite vers ce que j'appellerais la métaphysique et la morale. C'est-à-dire, ils nous disent, mais c'est nous qui fournissons le sens, ou bien c'est nous qui vous parlons de l'au-delà, de la vie après la mort, de la création du monde, de choses que j'appelle métaphysiques, parce qu'effectivement, elles ne sont pas directement vérifiables. Mais pourquoi dois-je faire confiance à des gens qui sont les héritiers d'une tradition, qui s'est trompée surtout au point de vue factuel, et puis... tout ce qui est vérifiable, et après ils nous disent, mais ce qu'on dit sur ce qui n'est pas vérifiable est vrai. Non, mais, pourquoi
on ne vous oblige pas à leur faire confiance.
Non, mais vous-même, vous faites confiance. Je veux dire, d'une certaine façon, ça m'étonne, ça m'étonne la démarche intellectuelle qui consiste à prendre la le discours religieux au sérieux après la défaite, si on veut, aux mains de la science sur les questions factuelles.
Non, mais j'aime bien ce que vous dites là, parce que j'ai souvent été, personnellement, mis en question, parce qu'au fond, j'apparais trop comme un électron libre.
Oui,
c'est-à-dire que c'est fait un orthodoxe rigoriste et bien conservateur, on sait où il est, donc il est facile à définir, donc facile aussi à attaquer ou à écarter. Le problème, c'est que quelqu'un qui cherche, quelqu'un qui bouge parce qu'il est plus difficile. Alors, il est plus difficile à viser, en quelque sorte, si je peux utiliser cette image-là, mais je ne me sens pas du tout attaqué. Mais je crois qu'en même temps, bon, je revendique cette possibilité d'être aussi dans le domaine de la religion, dans un état d'esprit de recherche, comme vous l'êtes dans votre domaine.
Parce que bien sûr, mais aujourd'hui, comment trouve-t-on des réponses aux questions ? Par exemple, dans votre livre Les moustaches du diable, vous citez Paul VI, qui maintient de façon absolument nette la transsubstantiation, c'est-à-dire, pour ceux qui ne sont pas habitués, la transformation littérale de l'hostie dans le corps du Christ. C'est littéral. Quand je dis ça à des gens qui ne sont pas... même des gens qui sont de tradition chrétienne, ils ne me croient pas, ils croient que c'est une métaphore, etc. Mais Paul VI, par exemple, insiste sur le fait que c'est littéralement le sang et le corps du Christ.
Alors, qu'est-ce qui vous gêne à lire Paul VI ? Enfin, vous pouvez
qu'est-ce
dire,
qui me gêne ?
Je ne crois pas en cela.
Oui, mais je me demande comment... je me demande comment peut-on croire cela ? C'est ça la question. Je pense que si on prend ça pour la parole de Dieu, alors bon, il y a une certaine cohérence. Mais sinon, je ne sais pas quels critères je vais utiliser pour dire, voilà... par exemple, on me dit parfois, oui, vous comprenez, Dieu devait s'exprimer dans le langage des gens de l'époque, c'était des paysans incultes.
Non, il ne devait pas s'exprimer, c'est que ceux qui parlaient étaient dans ce monde-là.
C'est ça, ils étaient dans ce monde-là, ok. Mais le problème, c'est, pour moi, c'est la question de la méthode, ce n'est pas les réponses. Les réponses, vous pouvez donner toutes les réponses que vous voulez, mais quelle méthode avez-vous pour déterminer les réponses ? En science, je suis désolé, il y a, malgré tout, malgré toutes les difficultés, malgré tous les... Je sais, je suis bien conscient de la complexité de la notion de fait en science, etc. Mais il y a un appel à l'expérience et au fait qu'il n'y a pas en religion. Je ne sais pas quelle autre méthode on utilise.
Comment, quelle autre méthode ? En religion ? On ne va pas utiliser en religion la méthode scientifique.
Non, mais quelle méthode utilise-t-on ? Comment détermine-t-on ce qui est vrai et faux ?
En sociologie religieuse chrétienne, il y a au moins trois acteurs différents, catholiques en particulier. Il y a au moins trois acteurs différents. Il y a le magistère, vous avez cité Paul VI tout à l'heure, qui est un peu le garant d'une certaine conservation du message.
Qui détermine ce que tout catholique est tenu de croire, hein, en matière de foi et de morale.
Il y a les théologiens,
oui.
et l'immense majorité des fidèles. Et c'est dans ce travail entre ces trois groupes, bon, qui sont évidemment intriqués, qu'on peut aussi s'interroger sur la manière de lire aujourd'hui cette tradition. D'ailleurs, ce n'est pas que les Écritures.
Oui, mais est-ce différent alors de l'astrologie ou de la
psychanalyse ? Mais qu'est-ce qui vous dérange dans tout ça ?
Mais j'ai pas dit...
En quoi ça vous dérange, vous, scientifique ? Que des hommes et des femmes, pour penser au sens de leur existence, puissent se raccrocher à un texte, pas seulement à un texte, à une tradition, à une communauté, à des travaux théologiques, à une recherche théologique, parce que je pense qu'il y a une recherche théologique.
Mais c'est un mode... Attendez. Savoir ce qui me dérange... Ça, c'est un problème, si on veut, à la limite morale et politique, qui, je propose de... Non, mais moi, je propose de laisser de côté, parce que, d'une certaine façon, on nous a invités pour débattre. On n'a pas beaucoup de temps. Si on doit commencer à débattre des effets politiques, moraux, etc., des religions, alors on va rentrer dans un long débat. Je propose de l'éviter et de me limiter à la question de la vérité. Comme scientifique, je m'interroge sur ce qui est vrai. Comment je fais la sélection, par exemple, pourquoi ne croire, pourquoi ne dois-je pas croire à l'homéopathie, à l'astrologie, je ne sais pas, à la psychanalyse, je ne sais pas, il y a toutes sortes de doctrines, si vous voulez, qui sont sur la table, vous les trouvez, vous allez à la FNAC, vous voyez ces livres à la FNAC. Et donc la question, pour moi, du statut épistémologique de ces doctrines se pose indépendamment de considérations sur ce qui me dérange. La question de savoir, tiens, est-ce que c'est vrai ou faux ? Est-ce que je vais acheter des livres dans ces rayons-là ou pas ? Et donc, la question de la méthode se pose. Donc, la question de la méthode, comme moi j'ai été élevé quand même dans la religion catholique, je la connais un peu de l'intérieur, moins que vous, évidemment, mais une des raisons de mon rejet de la religion, enfin de toutes les religions, c'est que je ne vois jamais comment déterminer ce qui est vrai et faux. Je ne sais pas ce qu'est Dieu, par exemple. Je ne sais pas. Quand on parle de Dieu, c'est même pas que je nie l'existence de Dieu. Je demande qu'on me définisse ce que c'est, qu'on me donne des arguments en faveur de l'existence de la chose qui a été définie. On ne le fait jamais. Donc, d'une certaine façon, mon athéisme consiste à dire, mais tant que vous ne me dites pas de quoi il s'agit et pourquoi je dois y croire, je ne sais pas de quoi on parle. Et donc, la vie après la mort, je ne sais pas ce qu'elle veut dire. Même vous-même, ce n'est pas tout à fait clair que vous sachiez ce qu'elle veut dire.
Parce que je pense que ce sont des questions auxquelles chacun est invité à donner ses propres réponses, en choisissant le contexte dans lequel il alors décide.
Alors vous êtes relativiste, vous tombez dans le protestantisme, parce que,
oui, pourquoi, bah,
parce que Paul VI...
Après, utilisez les mots que vous voulez, mais vous avez raison.
C'est les catholiques qui l'ont autant utilisé ces mots. Je veux dire, Paul VI, il dit, nous croyons à la vie après la mort et à la résurrection des corps. Je veux dire, il y a une époque où on ne pouvait pas... J'étais étonné récemment, il y avait un enterrement de quelqu'un que je connaissais, il y avait une crémation, et puis il y avait un office religieux, et ça m'a un peu étonné, parce que Russell raconte l'histoire que quand son frère est mort à Marseille, on pouvait pas, il ne pouvait pas de crémation être autorisée, parce que l'Église l'empêchait, parce que l'Église considérait qu'il était plus facile de reconstruire les corps à partir de ce qui avait été mangé par les vers de terre qu'à partir de la fumée, de la poussière.
Mais sans doute qu'on s'est interrogé avec toutes les braves missionnaires, tous les braves missionnaires qui se sont fait manger par des lions et brûlés sur des bûchers, qu'il fallait quand même trouver une solution un peu plus ouverte. Non, mais en même temps, pour moi, c'est des questions secondaires.
Enfin, bien sûr, je sais bien qu'on les considère comme secondaires, mais, ce qui est important, c'est que ces questions ont été importantes pour les vrais croyants à l'époque où l'Église était dominante. C'est ça ce que je ne comprends pas, c'est qu'on se rend compte que l'évolution de l'Église est impulsée par les critiques des sceptiques. Alors comme plan de réalisation divin de la nature, c'est quand même un peu bizarre que pendant des siècles, les vrais croyants se trompent sur toutes les questions vérifiables, finissent par être éclairés par les gens relativement sceptiques, qui sont peut-être croyants comme Galilée, etc. Et puis ils font ce travail d'exégèse, ils se disent « Mon Dieu, on n'avait rien compris, il faut tout réinterpréter de façon... »
Je caricature un petit peu. Il n'y a pas seulement des sceptiques de l'extérieur, c'est aussi des croyants
impulsé,
de l'intérieur.
Il est impulsé, parce que, bah, écoutez, il y a eu une résistance à Copernic, à Galilée, à Buffon, à Darwin, à tout. Et je pense que la religion a changé, elle a changé, je ne conteste pas, y compris le catholicisme. Donc il a changé, mais je prétends qu'il a changé sous les coups de boutoir des sceptiques, des scientifiques, etc., qui ont forcé le texte religieux à s'adapter, à faire son aggiornamento avec la modernité. Oui, c'est bien ça ce que je pense, parce que, ou bien vous vous fiez, entre guillemets, à l'expérience avec toutes les complications que ce mot implique, je suis d'accord, on peut avoir une discussion d'épistémologie là-dessus, ou bien vous vous fiez aux textes sacrés, qui sont décidés comme sacrés, et alors l'éternel problème que j'ai, c'est quel texte sacré, et puis pourquoi pas choisir les textes brahmanes, ou je ne sais pas, ou les traditions orales africaines, ou que sais-je, ou d'Amérique indienne. Je veux dire, il me semble que justement, c'est le problème de la multiplicité des religions et de la multiplicité des interprétations, parce que vous prenez le christianisme, vous avez le protestantisme, vous avez toutes sortes de versions dans le protestantisme, depuis le plus libéral, où l'existence de Dieu même ne pose pas question, et puis les plus rigoristes.
Et qui je dois croire en science, alors?
Mais où est-ce que vous voyez de tels désaccords en science? Trouvez-moi un scientifique qui n'accepte pas les lois de Newton comme approximation, par exemple. Trouvez-moi un scientifique qui conteste, disons que l'évolution a eu lieu.
Ne me dites pas qu'il n'y a pas de débat dans le domaine scientifique.
Bien sûr, il y en a. Mais
dans le domaine de la physique, il y en a eu énormément,
bien sûr.
Donc moi qui suis néophyte...
Bien sûr, mais il y a...
Qui je vais croire quand on me dit...
faire un séminaire en Chine ou au Japon... Et je l'ai déjà fait, je peux pratiquement commencer au tableau en utilisant les mêmes notations qu'en Europe. Et donc, c'est très différent. L'universalité de la physique dans les gens qui l'ont étudiée est très différente. Ah,
parce que l'Europe a été politiquement la plus forte et a imposé sa science.
Non, ça je crois pas.
Je vous force un peu.
Non, ça je crois pas une seconde, justement. Je sais, ça c'est la réponse, on va dire, postmoderne ou relativiste à laquelle je crois pas une seconde. Parce que justement, les Chinois, ils continuent à manger avec des baguettes. Je veux dire, on leur a pas imposé, on leur a pas tout imposé. Et de toute façon, eux développent la science, et la science dite occidentale est en train de se faire en Asie. Elle se va faire de plus en plus en Asie. Donc, elle a rien d'occidental dans le sens où les religions sont occidentales et la Chine n'est toujours pas chrétienne. Je veux dire, des régions, l'islam aussi, qui ont résisté à la christianisation. Et donc, ce n'est pas forcé. Donc je pense que la différence entre la christianisation forcée de certaines régions du monde et le développement, l'expansion de la science sont très différents. Et les débats ne sont pas les mêmes, parce que je prétends que vous ne trouvez des différences énormes entre, particulièrement chez les protestants, entre les protestants libéraux, mais aussi chez les catholiques libéraux comme vous, et les chrétiens protestants fondamentalistes. Or, et mon problème, c'est que je ne sais pas comment décider qui a raison et qui a tort. En science, je n'ai pas d'algorithme, mais il y a le consensus est beaucoup plus grand, d'une part, il est beaucoup plus universel parmi les gens qui l'ont étudié, et deuxièmement, c'est vrai que si vous me dites la superconductivité à haute température, qu'est-ce qu'il en est, ben alors je pourrais dire, voilà, j'espère que l'expérience pourra décider.
Oui, sauf que pour moi, la superconductivité ne me permet pas de répondre aux grandes questions de la vie.
Ah, ça c'est vrai. Mais la question, c'est...
Je sais.
Mais la question, alors, c'est pourquoi... Alors là, on retombe sur la question
de la méthode. Bon, la méthode, c'est le chemin.
Je sais.
Donc, une méthode qui me permet de décortiquer la matière, une méthode qui me permet d'observer l'univers, c'est intéressant. Et c'est peut-être d'ailleurs important dans la question du sens. Mais moi, ce qu'on recherche dans la religion, c'est une méthode, un chemin par rapport à ma propre existence.
Oui, mais le problème, c'est ceci. Il est double. D'une part, je pense qu'effectivement, la grande leçon épistémologique de la science moderne, c'est une leçon d'humilité. La science nous a appris que nous ne connaissions pas le monde à la façon dont nous pensions le connaître dans la théologie ou la métaphysique classique. Je pense qu'il y a une espèce de compréhension intuitive du monde et une compréhension à travers des réponses ultimes, d'où vient le monde, pourquoi y a-t-il de l'être plutôt que rien, où va-t-on, etc. Ce sont des questions auxquelles on n'a pas de réponse scientifique, on n'a pas de réponse empirique testable, on les abandonne. C'est des questions.
La
métaphysique, c'est une micro. Oui. Et je pense que la plupart des gens les abandonnent. Les gens vivent. Ils ne vivent pas parce qu'il y a un sens. Ils donnent un sens à leur vie. Mais je pense que la question du sens, c'est vraiment une question que les intellectuels religieux, telle que vous la posez, que les théologiens et les intellectuels chrétiens modernes ont tendance à substituer à la place du discours religieux classique parce qu'ils l'ont abandonné.
D'accord. Mais alors pourquoi aujourd'hui, quand vous intitulez un livre. Le visage de Dieu, le cosmos et le lotus, que vous associez la question de la science avec les questions religieuses, excusez-moi, je suis très pragmatique,
vous vendez
10 ou 100 fois plus d'ouvrages que celui qui va vous parler la dernière théorie de l'univers. Est-ce qu'il n'y aurait pas quand même chez nos contemporains une interrogation parce que le monde est quand même le monde.
Ça,
j'entends mon
ça,
petit
vrai.
Monde à moi.
Ça,
et
les gens se posent des questions.
Donc c'est par rapport à
les
ça.
Gens se posent des questions auxquelles il n'y a pas de réponse.
Alors après, à partir de ce constat-là, c'est vrai que moi je suis sensible comme vous à ce que vous disiez précédemment sur le discours ou trop conservateur ou trop relativiste qui fait qu'on se perd soit à désespérément défendre une seule idée ou au contraire on se perd dans la convulsion la plus totale du supermarché des religions et des idées et que c'est pas facile de trouver une méthode, un chemin entre les deux. Et je suis tout à fait d'accord avec vous, mais en même temps dire aujourd'hui la question du sens ne se poserait pas, je suis désolé, moi je suis humain et je rencontre tous les jours des humains. Même dans vos laboratoires, je rencontre des gens qui se posent des questions sur le sens de leur existence à eux. C'est-à-dire qu'ils peuvent être les meilleurs scientifiques, les meilleurs chercheurs, etc. Ouais. Et en même temps, il y a des moments dans leur existence où, zut, ils se redisent, mais pourquoi je suis là ?
Oui, bien sûr.
Même si je connais toutes les équations du monde...
Ils sont là parce que les parents l'ont fait. C'est-à-dire,
je suis biologiste, je sais bien d'où je viens biologiquement parlant. Je sais bien d'où je viens, je sais bien, j'ai quelques idées, mais ça me suffit pas à me demander... Même si vous voulez pas qu'on aborde des questions de morale et de politique, comment je vais me comporter aujourd'hui comme humain, en fonction aussi d'une certaine idée de l'humain que j'ai.
Et c'est là que, évidemment, on reprend
deux méthodes différentes. Elles ne sont pas opposées parce que je crois. En tout cas,
vous pouvez tenter d'avoir une connaissance scientifique de l'humain, ça c'est autre chose, c'est très compliqué, mais vous pouvez espérer en avoir.
Mais c'est intéressant
aussi. Oui, bien sûr.
Mais c'est intéressant même de l'avoir.
Je pense que la question du sens est toujours des questions. Comme je dis, cette migraine qu'on appelle la métaphysique, dans des questions du sens...
Je ne suis pas certain qu'il y ait plus de migraine chez les métaphysiciens que chez les physiciens. Moi, ce serait un sondage à faire.
Mais je trouve
que c'est quand même assez péjoratif, comme il dit, par rapport à la métaphysique, qui justement essaie d'aller...
Oui, je suis contre la métaphysique.
Mais je reste quand même persuadé, dans ma faible expérience humaine, que la question du sens est une question qui revient en permanence,
oui,
que ceux qui ont prétendu ou prétendent aujourd'hui y répondre totalement avec la science... Je ne dis pas qu'ils sont dans l'erreur, mais je n'y réponds pas.
Je pose la question différemment, évidemment.
Elle va revenir, votre question.
Si je me dis, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Est-ce que je vais consacrer mon temps à tel livre, à tel autre, donner des cours, faire de la recherche, aller en voyage à tel endroit, etc. Je vais me poser des questions sur ce que je fais. Mais j'ai toujours l'impression que la question du sens, au sens du sens ultime, avait une réponse dans la théologie classique qui était le ciel et l'enfer, et le paradis. Et donc ça, c'est la réponse, si vous voulez, vers quoi on va. Ben, la vie est un truc très temporaire et qui nous prépare à l'éternité. Mais si on abandonne cette réponse-là, et je crois que vous l'abandonnez, enfin au sens classique du terme, alors évidemment, il me semble qu'on ne voit pas très bien quelle réponse on pourrait donner. Je voudrais bien savoir quelle réponse fiable je peux avoir à ce genre de questions. Comment je peux tester comment est-ce que je vais faire pour répondre à cette question ? Telle que
vous allez me dire, ça y est, vous allez tomber dans le relativisme. D'abord, cette question-là, les seules réponses n'ont pas été l'enfer ou le paradis. Enfin, c'est une question qui relève de la philosophie. C'est quand même, pour moi, c'est l'essence même de l'être humain qui se pose là dans la question du sens.
Non.
En tout cas, c'est votre avis. Vous dites non, moi je dis, l'être humain, c'est l'être biologique par ailleurs qui, à cause de ses branchements neurologiques, à cause d'une forme de culture et d'héritage de génération continue à se poser la question, au fond, qui je suis, d'où je viens et où je vais. Ça semble peut-être limite, mais à ces questions-là, la science apporte un certain nombre de réponses. Contrairement à ce que vous venez de dire, moi je pense qu'effectivement, la philosophie, la théologie, ou les philosophies, les théologies, les spiritualités, les sagesses, doivent écouter ce que disent aujourd'hui les scientifiques de ce que nous sommes comme êtres humains. On a aujourd'hui une masse de connaissances,
oui,
grâce à vous.
Mais on n'a pas de réponse à la question du sens en science.
Mais c'est pas ce que j'ai dit. Je dis simplement que quand je décide de me poser cette question, je décide, ou que cette question s'impose à moi dans certaines situations, je n'ai pas à refuser ce que la science me dit par rapport à ce que je suis, la manière dont je fonctionne. Et là, on en connaît de plus en plus, et tant mieux, grâce à la science. Et en même temps, ça ne suffit pas à répondre à ces questions. C'est des éléments intéressants d'information. Qu'il faut absolument accumuler, tant mieux quand les philosophes vont écouter des scientifiques, quand des théologiens vont écouter des scientifiques, mais en sachant qu'ils ne retrouveront pas la réponse à leurs questions et c'est à chacun d'élaborer ces réponses.
Oui, mais
c'est là qu'on parlait de méthode.
Si la question, oui, mais attendez, pourquoi dois-je faire confiance aux théologiens, on va dire.
Je ne vous demande pas de leur faire confiance. Je vous leur demande simplement de respecter leur travail.
Oui, mais le problème, c'est que je ne sais pas ce que ça veut dire respecter. Je respecte, les gens peuvent faire ce qu'ils veulent, mais...
Voilà.
Ils ont le droit, oui, mais ça, c'est pas moi qui viens interdire aux théologiens d'exister, évidemment, ça, c'est malin. Mais face à mon but, mais s'il y a un débat intellectuel avec les théologiens, j'ai le droit de poser la question, pourquoi est-ce que moi ou d'autres, enfin, génériquement, doit faire confiance à des gens qui sont dans une tradition, comme je l'ai dit, qui s'est trompé sur toutes les questions empiriques, et puis qui dit, mais maintenant, je vais vous indiquer le sens de la vie, mais je ne sais pas pourquoi, quelle autorité avez-vous? Je veux dire, les gens critiquent les économistes parce qu'ils n'ont pas prévu la crise, etc. Bon, alors on ne leur fait pas confiance, mais il me semble que ça, c'est une crise parmi d'autres, et puis il y en avait qui l'avaient prévu, etc. Mais les théologiens, ils ont tout faux sur toute l'histoire naturelle, et ça a été explicite dans l'Église. Je peux retrouver des livres du 19e siècle ou du 18e qui affirment évidemment le récit de la création, littéralement, et qui y croient. Or, les gens qui viennent de cette tradition, qui ont renoncé...
Il y a des scientifiques qui ont pensé que l'univers était fixe, était stationnaire.
Bien sûr.
Vous me dites, je ne peux pas faire confiance aux scientifiques parce que certains d'entre eux,
non,
et même parmi les
non,
plus grands,
mais
ont dit que l'univers
mais je ne dis pas que vous devez faire confiance aux scientifiques.
Vous n'avez pas à faire confiance aux scientifiques, mais vous voulez faire confiance aux théologiens.
Non. La question des scientifiques n'est pas de leur faire confiance comme individus, mais de leur faire confiance aux preuves qu'ils apportent. Ou d'essayer de
là
voir...
De faire, c'est ça.
Et là, je ne vois pas où il y a de preuves du côté des théologiens, je ne vois pas... Oui, mais alors, moi, je suggère d'accepter les limites de la condition humaine, que nous découvrons petit à petit, avec le raffinement de nos connaissances scientifiques, nous nous rendons compte aussi qu'il y a des questions... Donc ça, c'est la grande séparation, si vous voulez, je trouve, qui s'est faite de nouveau avec le développement des sciences, mais aussi de la philosophie empiriste, par exemple de Hume, etc., de voir qu'il y a certaines questions, comme les causes ultimes, etc., auxquelles il n'y a pas de réponse et auxquelles il faut renoncer. Maintenant, si les êtres humains continuent à se poser des questions, essayer de trouver des réponses auxquelles il n'y a pas de réponse, écoutez, je vais dire en plaisantant que la meilleure preuve de l'inexistence de Dieu, c'est que s'il existait, il aurait laissé faire la sélection naturelle pour produire des êtres humains qui croient en lui alors qu'il n'y a pas de raison de croire en lui et qui se posent des questions auxquelles il n'y a pas de réponse. Ça, c'est la preuve que Dieu n'est pas là, ou qu'il n'est pas bon, ou qu'il n'est pas tout puissant. Je plaisante.
Non, mais pas du tout. Ou à moins qu'on ait une mauvaise définition de Dieu.
Ah oui, mais je ne la connais pas. Quelle est la définition de Dieu?
Mais personne ne la connaît.
Oui, mais si personne ne la connaît, alors je ne sais même pas de quoi je dois discuter. Si je dois discuter de l'existence de Dieu, si je suis athée, on me dit vous êtes athée ou niez l'existence de Dieu. Mais si on me dit qu'on ne sait pas de quoi on parle, je nie pas l'existence de quoi que ce soit. Je nie l'existence d'un truc dont on ne sait pas de quoi.
C'est bien pourquoi les grands ont des étiquettes athées, agnostiques ou croyantes sont des étiquettes très difficiles à utiliser.
rapprochement entre science et religion forcément dangereux.
Oui, évidemment.
Oui, mais il est dangereux pour nous deux, mais pas de la même façon. C'est-à-dire que moi, le problème, c'est que je ne vois pas très bien ce que la religion peut apporter à la science. Oui, c'est vrai que je ne vois aucune utilité au discours religieux, et même une partie du discours philosophique que j'appelle métaphysique. Mmh. Pas tout, mais il y a une réflexion philosophique sur la science, à partir de la science, ou une défense philosophique de la science qui est utile, mais contre la pseudo-science, contre les mystifications. Mais la religion elle-même, c'est vrai que je pense que le rapprochement serait dangereux s'il y en avait un.
Oui, je pense aussi que la religion n'est pas utile à la démarche scientifique telle que vous la décrivez. Je suis tout à fait d'accord sur cette démarche. En revanche, je dirais, la démarche scientifique et les données scientifiques doivent être aujourd'hui prises en compte par une démarche religieuse, une méthode religieuse. Et les rapprochements sont dangereux, qu'ils soient de type discours créationniste qui essaie de proposer une pseudo-science qui est en fait une religion cachée, ou des discours pseudo-scientifiques de certains scientifiques qui utilisent leur aura scientifique pour défendre des idées, une idéologie, parce que c'est bien beau, mais ça existe aussi aujourd'hui.
Par exemple,
Richard Dawkins, qui publie des ouvrages pour en finir avec Dieu, The God Delusion, qui vend ça à des millions d'exemplaires, parce qu'il s'appelle Richard Dawkins, que c'est un biologiste reconnu, et qui en fait son cheval de bataille, une croisade athée. C'est-à-dire que je crois qu'effectivement, aujourd'hui, il faut porter un regard critique sur les mouvements religieux. Mais pas nécessairement sur les croyances personnelles des gens, mais sur les mouvements religieux. Malgré tout ce qu'on pourrait espérer ou craindre, ça dépend de quel bord on est, les phénomènes religieux continuent à exister et à soit encombrer, soit à alimenter l'espèce humaine. Donc il faut essayer d'avoir une certaine intelligence dans ce que l'on peut apporter, mais éviter les rapprochements dangereux.
Oui, mais je pense que, bon, je ne veux pas défendre tout ce que dit Dawkins, mais l'attitude athée n'est pas une attitude dogmatique. Elle est une attitude qui s'est affinée au cours du temps avec le développement des sciences et de la connaissance des autres cultures, en disant, pourquoi dois-je croire tel texte sacré plutôt que tel autre? Donnez-moi des arguments, et donnez-moi des arguments qui sont comparables aux bons arguments qui ont été développés en science, c'est-à-dire des arguments rationnels ou empiriques. Or, les religieux échouent à le faire. Et alors on a tout un tour
parce
de passe-passe.
Parce que vous voulez que les religions s'imposent, comme la science s'impose aujourd'hui. C'est ce que vous voulez, au fond.
Ah non.
Mais si,
ah
en non. Vous écoutant, il faut que je prouve
oui,
que j'ai raison. Que...
Non, mais... Non,
mais vous avez raison, vous, comme scientifique, de dire, voilà, j'avance une théorie et je vous apporte des preuves, un certain nombre de preuves qui permettent de dire, c'est plutôt cette théorie qu'il faut utiliser pour lancer des fusées ou pour comprendre l'univers. Bon, là, c'est parce qu'on est dans un débat...
Comprendre à un certain niveau, mais pas comprendre au niveau... Des questions métaphysiques classiques, ça c'est vrai. Et la religion n'apporte pas de réponse à ces questions.
Non, parce que, pour moi...
Elle en a apporté, mais ce qui est important, c'est qu'elle apportait dans le temps.
Elle en a apporté ? Je comprends pas.
Elle apportait dans le temps, elle prétendait apporter dans le temps.
Elle prétendait dans le temps. Mais
elle a abandonné, ça.
Mais moi, je trouve pas ça pas si mal.
Non, moi non aussi plus. Moi non plus, mais je ne sais pas ce qui reste, vous comprenez, c'est ça. Le problème que j'ai avec
les critères modernes, il reste que les gens sont face à leur liberté. Je vis dans une société aujourd'hui qui est éminemment alimentée par les sciences. J'en utilise tous les jours.
Bon, mais ça, il ne faut pas exagérer. Les gens ne comprennent pas. La majorité des gens n'ont pas une telle démarche scientifique. Il n'y a qu'à voir...
Non, mais ça ne veut pas dire que je comprends. Mais aujourd'hui, j'entends des scientifiques, je vais visiter des expositions, on m'explique des sciences, et nous avons besoin des sciences pour vivre aujourd'hui. D'une certaine manière, elles s'imposent à moi. Je ne peux pas choisir d'être contre... telle ou telle théorie, une théorie qui, par ailleurs, dont je juge. Ce que je trouve, ou je trouve encore, ça dépend de quelle société, mais c'est qu'aujourd'hui, dans un certain nombre de sociétés, de nos sociétés, la question religieuse relève aussi d'un choix, dans lequel je n'ai pas à prouver que j'ai raison pour que les gens viennent dans mon église, ou dans ma chapelle, ou dans tout ce que vous voulez, comme mieux.
Ça, c'est la démarche. Alors, on passe à la démarche que j'ai appelée fidéiste ou que j'ai appelée protestante. C'est-à-dire que vous dites, voilà, moi, je crois des trucs, fichez-moi la paix. Alors,
non, pas fichez-moi
pas
la paix. C'est
la critique
du choix.
Possible, à un moment donné. Si c'est un choix, comme vous dites, j'ai envie d'aller voir tel film plutôt que tel autre, je ne vais pas vous critiquer, vous allez voir le film que vous voulez. Le problème, c'est que la démarche religieuse traditionnelle n'était pas... Le subjectivisme religieux est de nouveau le reflet de la défaite de la religion face à la science.
Pour vous,
ça.
C'est comme ça que vous le regardez. Oui. Et pour moi, ce n'est pas le signe de la défaite. C'est la défaite de la religion telle que
Saint-Thomas
vous la décrivez.
Saint-Thomas ne disait pas que c'était un choix. Il pensait qu'il avait raison. Et je trouve même que c'est un peu triste, d'une certaine façon, de voir combien les catholiques, aujourd'hui, ne défendent pas comme ils le faisaient quand j'étais élève chez eux. La religion...
Vous êtes un nostalgique de la religion d'antan qui était quand même plus facile à descendre ou à...
Mais je ne sais pas ce qui est plus facile à descendre, parce que le problème, c'est que je ne sais pas très bien... Évidemment, si le discours devient vide, il devient un choix subjectif, etc., etc., plus rien n'est affirmé, alors évidemment, il ne me dérange pas, non, ça c'est vrai. Non. Mais il y a une espèce d'irritation face à cette vacuité.
Vous êtes un grand nostalgique religieux, en fait.
Non.
Si, vous avez parlé toujours de la religion au passé.
Mais
la religion que vous critique en disant « Ah, dans le temps, au moins, c'était plus simple. »
Non, aujourd'hui, c'est pas que c'est plus simple. C'est, je vous ai dit, il y a deux écueils. Il y a le dogmatisme et le relativisme. Mm-hmm. Le dogmatisme s'est transformé en relativisme pour essayer de sauver le discours religieux. Entre les deux, ce qui est réellement entre les deux, c'est le scepticisme scientifique. C'est-à-dire, vous êtes sceptique par rapport aux assertions dogmatiques, mais vous êtes scientifique par rapport aux assertions de fait, c'est-à-dire vous acceptez qu'un certain nombre de choses qui peuvent être testées nous donnent une connaissance partielle, provisoire, révisable, etc., avec tous les qualificatifs que vous voulez, de la nature. Et vous êtes sceptique par rapport aux réponses dogmatiques du passé et aux questions auxquelles ces réponses étaient données, c'est-à-dire les questions...
Il me semble que je me suis présenté de cette manière-là, en disant que je...
Oui, sauf que vous vous mettez quand même dans le registre religieux. Moi, je ne vois pas de place religieuse. Je ne vois plus de place
à la religion. On a déjà débattu là-dessus. C'est parce que moi, je pense qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, peut-être que la majorité de nos concitoyens en humanité se posent des questions de sens. Et pour ça, certains vont visiter des lieux où lisent des bouquins scientifiques, peu pour répondre à ces questions, et d'autres, eh bien, ont comme recours. Et que ceux-là, je ne peux pas les oublier. Je ne peux pas dire que la grande majorité de l'humanité, je l'ignore parce qu'ils vont brûler un cierge dans un temple ou à d'autres. Ça, c'est une réalité humaine.
Ça, c'est une réalité humaine.
Je ne peux pas l'ignorer.
Je ne la conteste pas. Ma réponse à ça, c'est que mon éthique comme intellectuel, c'est de chercher la vérité sur des questions importantes et de la dire.
Je peux me tromper. Vérité, vous ne m'avez pas dit tout à l'heure ce que c'était pour vous.
Mais si, dans la recherche de la vérité, justement, je pense que dans la recherche de la vérité, l'élimination de la métaphysique, l'élimination des discours religieux, etc., fait partie de la recherche de la vérité. C'est-à-dire, vous faites
là
un tri.
C'est quoi la vérité pour vous ?
Mais quelque chose qui correspond à l'état du monde, qu'on peut connaître de façon fiable.
C'est la connaissance du monde, simplement.
Si on parle en dehors de la morale, oui, bien sûr. C'est la connaissance d'un monde qui, y compris nous, évidemment,
en faisant partie du monde. Mais la vérité, oui, la vérité scientifique.
Mais y en a-t-il d'autres ? C'est ça la question. Les vérités de la vie de tous les jours.
C'est ça la question.
Oui, c'est ça. Il y a la vérité de tout. Mais y a-t-il des choses qui sont connaissables comme vraies ? Donc la vérité, il peut y avoir des vérités. Par exemple, l'existence de Dieu est peut-être vraie, mais elle n'est pas connaissable. Ça, c'est concevable. Donc je veux dire, je peux très bien admettre qu'il y a des choses qui m'échappent, qui sont vraies et qui m'échappent. Mais justement, la recherche de la vérité, d'assertions dont on peut penser de façon fiable qu'elles sont vraies, ça, c'est ce que j'estime être le devoir des intellectuels. Mais non, plutôt que de raconter des fables qui font plaisir aux masses, si on peut dire méchamment, je préfère ça. Je veux dire, je pense qu'effectivement, je suis conscient du fait que l'immense majorité des contemporains n'adoptent pas ce que j'appellerais la vision scientifique et naturaliste du monde. Parce qu'en plus, parce qu'évidemment, le catholicisme aujourd'hui en France est le cadet de nos soucis. Nous, rationalistes, il y a l'astrologie, il y a toutes sortes de médecines parallèles, il y a tout ce que vous voulez. Je veux dire, on a l'embarras du choix dans le magasin de l'irrationnel. Mais le problème, c'est effectivement, n'est-il pas plus noble et plus digne pour les intellectuels de défendre justement une approche rationnelle du monde plutôt que d'emberdificoter les trucs en disant « Oui, mais je vous racontais un truc sur le sens, sur un dieu, mais je ne sais pas ce que c'est, je cherche, etc. » sans jamais savoir qu'est-ce qui permettrait de donner une réponse et de tester ma réponse, m'assurer que ma réponse est bonne. Vous cherchez Dieu, mais quand est-ce que vous allez le trouver? Si quelqu'un cherche une nouvelle particule, il cherche une particule au CERN, bon, ça, ils peuvent espérer la trouver. Mais Dieu, qu'est-ce qu'on va trouver? On va chercher toute sa vie Dieu sans savoir ce que c'est ou quoi? Dans le temps, la réponse ne faisait pas de doute. Dieu, c'était quelqu'un... Et demandez à votre voisin qui est musulman, ça ne fait pas de doute. Dieu est quelqu'un qui a créé le monde, s'est révélé dans le Coran, qui va vous mettre au ciel ou en enfer, suivant que vous faites ça et ça. Et les catholiques avaient leur propre réponse dans le temps. Mais je trouve qu'il y a une certaine cohérence, tandis que j'ai l'impression que la position de repli qui est celle des chrétiens modernes me paraît simplement incohérente. J'ai l'impression que vous êtes des athées qui s'ignorent.
On est sans doute des agnostiques.
Des agnostiques plutôt.
Je pense qu'il y a des rapprochements aujourd'hui, enfin des rapprochements, parce qu'on met des termes. On veut mettre des étiquettes partout, ça c'est assez scientifique d'ailleurs, vouloir mettre des étiquettes. Donc s'il y avait des étiquettes à mettre, il y a dans les chrétiens aujourd'hui, des courants qui sont agnostiques dans le sens où il y a vraiment des questionnements qui se posent. entre la religion affichée, bien définie, et dont certains sont nostalgiques, au point d'ailleurs qu'ils recréent cette religion-là. Mais vous en faites partie, je crois, quelque part.
Mais non, vous ne me comprenez pas.
Mais si, je vous comprends, mais sinon c'est plat. Enfin. Et par ailleurs, il y a ceux aussi qui disent, voilà, en fait, je ne sais pas tout.
La question
aujourd'hui, c'est que, bon, contrairement à vous peut-être, mais c'est que mon souci, c'est pas les quelques privilégiés aujourd'hui qui possèdent les moyens d'une méthode scientifique, etc., de se dire, au fond, pour moi aujourd'hui, la vérité, c'est surtout connaître, comprendre le monde, c'est qu'il y a des milliards de gens aujourd'hui qui continuent à se poser des questions, et qui sont, en tâchant de répondre à ces questions du sens, se trouvent aussi dans un milieu religieux que scientifique.
Non. Moi, quand j'étais en Inde, par exemple, il y a un certain temps...
Aujourd'hui, combien de personnes ?
Quand j'étais dans un temple en Inde, les gens ne se posaient pas la question du sens.
Qu'est-ce qu'ils faisaient ?
Ils allaient pas, justement, ça c'est une réponse de chrétien moderne, eux, ils allaient devant des idoles, enfin, ce que vous appelez des idoles, parce que ce sont des idoles, si vous voulez, en pierre, ils allaient recevoir des offrandes, ils priaient pour des bénéfices immédiats dans cette vie-ci, pas dans l'au-delà, dans cette vie-ci, parce qu'ils sont misérables, pour avoir à manger, pour avoir un enfant qui est guéri, qui est malade, qui guérit, des choses comme ça. Mmh. Exactement. Il faut bien se rendre compte qu'il y a ce que j'appelle un dieu superstition, un dieu métaphysique. Le dieu auquel 95% de l'humanité qui est croyante croit, c'est le dieu superstition. C'est-à-dire, c'est un dieu compris, qui vous aide dans cette vie-ci, qui éventuellement vous récompense ou vous punit dans l'au-delà. Mais c'est un dieu qui agit et qui agit en fait de façon testable. On peut tester l'efficacité de la prière, on peut investiguer les miracles et je pense que les réponses là sont de nouveau négatives et en conflit, si vous voulez, avec la science. Et puis il y a la position de retrait, qui est la position des théologiens modernes comme vous, qui est la position métaphysique, c'est-à-dire on commence à se poser des questions auxquelles on sait qu'on ne va pas se tromper parce qu'on ne peut pas apporter de réponse. Donc là on fait gaffe, on s'est assez trompé, donc on fait gaffe et on pose des questions auxquelles on ne risque pas, ou sur lesquelles on ne risque pas d'être contredit, ou en plus on n'apporte pas de réponse définitive. Alors évidemment, mais la question, c'est à quoi joue-t-on ? C'est ça, j'ai l'impression que c'est une métaphysique qui vient au secours d'une superstition, la théologie. C'est ça ce que je pense. C'est-à-dire que, parce que ça fait bloc, vous dites, il y a des milliards de gens qui sont de mon côté de l'argument, mais ils ne le sont pas vraiment, parce qu'eux, ils croient littéralement à ce que leur disent leurs prêtres, ou leurs textes sacrés, ou je ne sais pas quoi. C'est ça, ce que les gens croient. Et ce n'est pas très différent des superstitions qu'il y a en Occident.
Dont acte. Qu'est-ce que les gens disent ? On ne va pas repartir sur le débat.
Ok.
Moi, ce que je garde comme question, c'est, au fond, en vous écoutant, ce serait ça ma conclusion, est-ce que nous ne devons pas reconnaître que, à la fois, les théologiens modernes, comme vous les désignez, et je suis tout à fait d'accord avec votre analyse, d'une part, et les scientifiques de l'autre, ben, ont échoué.
Pourquoi les scientifiques ont échoué ?
Parce qu'aujourd'hui, la science, elle mène où ?
Mais elle mène à une connaissance... de plus en plus précise du monde.
On s'en fout. Si en sortant tout à l'heure, je suis confronté à un événement heureux ou malheureux dans mon existence, je m'en fous si c'est Newton qui a raison, si c'est Einstein qui a raison, ou si c'est un autre. Bon, on va pas lancer le débat.
Oui, vous pouvez vous en foutre, oui, ça c'est vrai.
Mais je comprends.
Je pense que c'est toujours l'assaise dans la connaissance que la science suggère, et à laquelle la théologie essaie, que la théologie refuse. C'est cette assaise dans la connaissance qui dit qu'il y a des questions auxquelles il n'y a pas de réponse.
C'est déjà fini, bravo et merci. On se retrouve bientôt pour un nouveau débat. Deux invités dans ce même plateau, rien que pour eux.